Bien sûr que la question de la sexualité et de l'accueil de la vie est une question majeure dans la vie de couple, etc. Mais vie pro, vie perso n'est pas une question mineure. Et donc, je vous propose simplement qu'on puisse aborder ces questions qui ne sont pas si simples, de façon à ce que, voilà, avoir un peu des idées là-dessus. Puis, vous aurez après chaque temps d'enseignement, je vous donnerai un peu comme ce matin, des questions pour que vous puissiez échanger. Voilà. Alors, la question de, on va voir d'abord la question de la sexualité, de l'accueil de la vie, et d'essayer de comprendre déjà un peu le passif qu'a l'Église par rapport à cette question-là de sexualité et d'accueil de la vie, ou quand vous faites, si vous faites un micro-trottoir, etc., grosso modo, les avis sont plutôt négatifs, c'est-à-dire que l'Église a plutôt un avis négatif sur laquelle voit de façon négative ou de façon un peu sale, entre guillemets, la question de la sexualité. D'où ça vient? Et puis, quelles ont été dans les racines de ça? C'est important de comprendre les racines. Et puis ensuite, quelles ont été les évolutions et le pourquoi de la position de l'Église et le sens de cette union intime des époux, etc. Tout d'abord, d'où ça vient? D'où ça vient, je pense qu'il y a des racines, tout d'abord, on peut dire philosophiques. Je vous l'ai dit, j'ai été très marqué par ma formation en philosophie. Vous savez, comme prêtre, on est une formation en philosophie, et ça m'a beaucoup marqué. Et à l'école de Saint Thomas et d'Aristote. Et dans la philosophie de Platon, on voit qu'il y a une forme de dichotomie, disons, d'opposition entre l'âme et le corps. Vous vous rappelez, c'est quoi? C'est en terminale, en première, on fait la philosophie? Terminale. Bon, et première maintenant? Ah, première, mais c'est bien. En plus de la terminale. Ah, ok, d'accord, c'est une option. Okay. C'est bien qu'on fasse les deux. Mais du coup, c'est intéressant de voir d'où ça vient. C'est que pour Platon, donc l'opposition, le corps prison de l'âme, grosso modo, pour la faire très brève, le corps prison de l'âme, et donc j'ai les passions qui sont, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu vos études de philo, mais c'est avec les chevaux, etc., qui tirent, les quatre chevaux, en fait, les tentations, etc., qui sont beaucoup dans le corps, etc. Ah, voilà. Et donc, du coup, cette opposition entre corps et âme, et le corps vraiment clairement comme négatif. Il faut sortir de son corps, sortir des passions charnelles pour arriver à une dimension philosophique, hein, une dimension spirituelle, peut-être pas spirituelle, mais en tout cas philosophique. Et ça a été repris par les premiers chrétiens. Platon, c'est plusieurs siècles avant le Christ, etc. Mais les premiers chrétiens ont repris cette dimension-là parce que vous vous rappelez aussi que dans le monde platonicien, le vrai monde n'est pas ici. Le vrai monde, c'est le monde des idées. Et quand on dit le monde des idées, c'est pas juste une idée qui me traverse la tête. Non, les idées sont plus vraies qu'ils. Et ici, c'est le reflet du monde des idées invisibles. Mais les idées sont les modèles, sont les vraies réalités. Ce que je ne vois pas, c'est la vraie réalité. Et ici, c'est le pâle reflet, avec le mythe de la caverne, vous vous rappelez, et le philosophe roi, etc., qui voit des ombres, voilà, mais du coup, lui, il a accès à la lumière, et du coup, c'est quelqu'un qui est éclairé, parce que. Évidemment, les premiers chrétiens sont partis là-dessus, mais tambour battant. Parce que qu'est-ce qu'on dit dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin? Le mariage, c'est le signe visible d'une réalité invisible, mais le sacrement en général. Donc forcément, les premiers chrétiens sont complètement partis, tambour battant là-dessus, etc. Et vous voyez un saint Paul clairement dire, voilà, les parfaits, ce sont ceux qui ne prennent pas femme, mais si vous brûlez, c'est-à-dire grosso modo, si t'en peux plus, Bah, prends-toi une femme, mais voilà, bon, ben, t'es vraiment le pauvre garçon, quoi. T'es vraiment, vraiment le pauvre type, quoi. Vraiment le... Voilà. Et du coup, il parle très bien des passions du corps, le corps, voilà, c'est cet esprit qui s'oppose, la chair et le corps, voilà, c'est la chair et l'esprit, etc., s'opposent. Alors, la chair, c'est au-delà du corps dans Saint Paul, bien sûr, mais c'est intéressant de voir que ça s'enracine quand même dans un passé aussi, dans une néo-platonicien, on pourrait dire. Hein, des premiers chrétiens. À cela se rajoute un ami, l'ami Saint-Augustin, l'ami Saint-Augustin, donc 4e, 5e siècle, qui lui, clairement, dit, parce qu'après, il faut faire un peu d'histoire de l'Église, mais après les premiers chrétiens, les martyrs, en fait, suivre le Christ, c'était les martyrs. Et à la conversion de Constantin, hein, au 4e siècle, la conversion de Constantin, du coup, l'Église, la religion chrétienne est devenue religion d'État, il n'y a plus de martyrs. Et donc, quelle était la manière absolue de suivre le Christ? C'est la vie monastique. Et donc, vous avez les premiers saints Benoît, etc., mais même avant, en Orient, vous avez des règles qui ont été édictées, etc. Et on voit bien, par exemple, à Saint-Augustin, qui a une vision négative du mariage. Pareil, qui a une vision négative du mariage, qui a une vision, qui a une vision négative de la sexualité, pratiquement. Voilà, la sexualité, c'est fait pour apaiser la concupiscence. Mais c'est pendant des siècles qu'on a eu ça. La concupiscence, c'est-à-dire, t'en peux plus, ben, tu prends une femme, tu prends un homme, et du coup, tu t'apaises. Et ça, et les enfants. Du coup, mais bon, on a en général plus de relations intimes que ce qu'on a d'enfants. En tout cas, je vous le souhaite. Mais du coup, voilà. Donc, c'est intéressant de voir un peu le background qu'il y a derrière cette certaine. Même si le corps dans la foi chrétienne n'a jamais, a toujours, parce que c'est. Si vous voulez, ce qui est un peu étonnant dans cette histoire-là, nous, je vous l'ai dit ce matin, nous sommes la religion du corps. Nous sommes la religion de l'incarnation. Ce qui est étonnant de voir cette opposition entre ce côté négatif sur le corps, prison de l'âme, négatif sur le mariage et l'union intime des époux, etc., alors qu'on est la religion du corps et de l'incarnation. C'est un peu, bon, c'est pas très logique. Bon, il y a parfois des choses dans les religions qui ne sont pas très logiques, c'est pas très cohérent, quoi. Et puis, il y a plusieurs événements assez récents, parce que, mais bon, le temps que ça infuse dans toute l'Église, ça prend un certain temps, comme dirait l'autre. Premièrement, le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, donc 1960, donc c'est qui a redit, a dit, le mariage, c'est un appel à la sainteté, c'est une véritable vocation. Il y a certes la vocation consacrée, dans le célibat consacré, etc., mais le mariage est une vraie vocation à la sainteté. Et puis, celui qui a, je trouve, redonné des mots à l'Église, qui ne sont pas simples à comprendre, je vais essayer de vous la faire brève, mais bon, qui ne sont pas simples à comprendre, etc., c'est Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II qui a donné toute une théologie du corps. Et là, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez admirable. Il a redonné des mots à l'Église, redonnant une positivité et la beauté de la relation sexuelle. Hein, et de voir que cette relation intime entre époux, eh bien, elle dit quelque chose de sacré et de beau. Et ça, je pense qu'on avait besoin de l'entendre après des siècles, comme je vous l'ai expliqué, de négativité. En quoi consiste, rapidement, cette question de la théologie du corps, hein, selon Jean-Paul II? Le corps, pour lui, le corps. Donc ça vient aussi, ça s'enracine dans ce qu'on appelle le personnalisme, qui est une des branches de la philosophie. La manière dont on voit la philosophie, c'est-à-dire dont on voit ce qu'on appelle l'anthropologie, c'est-à-dire dont on voit la personne humaine, évidemment, va dire le rapport au corps et va dire le rapport à l'union intime. Si vous pensez, par exemple, qu'un corps n'est qu'un amas de matière, bon voilà, mangeons, buvons, festoyons, et puis demain on meurt, puis c'est la fosse et c'est fini, je veux dire, où est le problème? Mais si vous pensez que le corps est plus que le corps, et que le corps a une, est uni de façon, ce qu'on dit, substantielle en philosophie, à l'âme, et que, et ça c'est en philosophie, mais qu'en théologie, vous savez que nous ressusciterons avec notre corps, donc c'est quand même pas rien, je veux dire, bon, et c'est saint Thomas d'Aquin qui dit, il n'y a pas de, si on pense un bonheur, et quand on imagine un paradis, on pense un bonheur, eh bien si on pense un bonheur, ce n'est pas sans notre corps. Un bonheur plaigné, c'est toujours avec notre corps. C'est assez logique, hein? Parce que ce corps, il dit la personne. Et je pense que c'est ça aussi la nouveauté que donne le pape Jean-Paul II, c'est que le corps rend visible l'invisible, rend visible l'amour des époux, qui est invisible, parce que l'amour, on ne peut pas le toucher, on le voit qu'à travers le corps, mais aussi rend visible, il fait le parallèle, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc le mystère de l'incarnation. Vous vous rappelez le parallèle entre mystère de l'incarnation et sacrement du mariage. Donc c'est une logique qui se tient. Et je trouve que c'est intéressant de voir que pour Jean-Paul II, le corps dit la personne. Le corps n'est pas simplement un amas de cellules. Le corps est donc la relation intime. Ce sera la relation intime de personne. Et le don du corps, ce sera le don des personnes. Juste un truc en passant ou pas, mais si vous avez été exposé jeune à des images pornographiques, par exemple, ou que peut-être même encore c'est un problème. Moi, je vous raconte une histoire, parce que bon, bah, c'est qui est pas facile, mais bon, qui est jeune mariée, etc. La jeune femme se réveille en pleine nuit, etc. Elle ne voit pas son mari à côté d'elle. Ils disent, bon, il est parti boire de l'eau, quoi, il est aux toilettes, j'en sais rien, bref. En pleine nuit, quoi. Et puis, bon, elle se lève aussi, elle était arrivée, elle se lève. Et puis, elle voit, dans le salon, il y avait l'ordinateur familial, on peut dire, voilà, qui était utilisé. Mais l'ordinateur était de telle manière que celui qui l'utilisait était dos à la porte d'entrée. Ce qui fait que celui qui entrait voyait l'écran. Vous me suivez jusque-là? C'est bon? Et, bon, comme vous l'imaginez, arrive ce qui arriva. Le type s'est levé quand même du lit matrimonial pour mater du porno en se masturbant. Alors, vous vous dites, ce garçon-là, déjà, premièrement, comment chacun retourne dans le lit matrimonial après? Avec quel accompagner un couple comme ça, c'est quand même pas si simple que ça. Entre le mari qui dit je suis un pervers, entre la femme qui dit je donne pas ce qu'il faut à mon mari, etc. C'est complexe. Et surtout, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a eu comme habitude peut-être enracinée souvent dans l'adolescence. Alors, vous êtes dans votre adolescence, il n'y avait pas encore les portables ou si il n'y avait pas les portables avec Internet? Si, déjà? Donc potentiellement, c'était le début, non? Ou déjà vous étiez en plein dedans? C'était le début. Ça dépend des âges, d'accord, oui. Donc c'est vrai que bon. Du coup, c'est intéressant de dire, voilà, si vous avez été exposé à des images pornographiques, bon, il peut y avoir un moment de curiosité. Bon, je n'exclus pas un moment de curiosité, etc. Mais tu as toujours le bon pote qui veut faire le malin, qui te monte une histoire de fesses. Bon, voilà, bon. Bon, voilà. Mais la question, c'est bon. La question, quand ça s'incruste dans la tête, et qu'il y a une sorte de demande, vous savez, il y a une forme d'érotisation le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Il y a une érotisation du cerveau qui fait qu'il demande sa dose. On est clairement dans l'addiction. Sexe addict. Oui, donc. Mais vous voyez là, la pornographie qui précisément déconnecte les corps des personnes. Et on voit même des photos de publicité, etc. On voit des corps mais sans visage. C'est-à-dire qu'on montre et surtout c'est les femmes qui sont mises en valeur, mais pas pour leur personne. Au moins, on voit les poitrines, on voit, etc. Bon, très avantageux, mais on ne voit pas forcément le visage. Or, qu'est-ce que. Du coup, on a. Vous voyez, il y a une sorte de coupage en morceaux du corps, ce qui fait que, avec la pornographie, on apprend à jouir du corps de l'autre indépendamment de sa personne. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire que ce n'est plus le don des personnes qui est premier, c'est la jouissance que je retire de l'autre, mais indépendamment de qui il est. Et donc, c'est assez intéressant de voir, peut-être, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette question, mais bien avant Jean-Paul II, les missionnaires protestants d'abord et ensuite catholiques ont, dans leur prêche, enseigné ce qu'on appelle la position du missionnaire. Vous voyez ce que c'est que la position du missionnaire? C'est la position à la papa-maman. C'est-à-dire la femme en dessous et l'homme dessus. D'après vous, pourquoi? Parce que la position naturelle que l'on voit chez les mammifères n'est pas celle-là. D'après vous, qu'est-ce qui fait que la position missionnaire a été. Vas-y, tu y es. C'est les visages se regardent. Et qu'est-ce qui dit le plus la personne dans le corps? Le visage. Et donc, du coup, je ne m'unis pas à la manière des animaux. Hein, je ne m'unis pas, voilà. On peut regarder l'autre, mais du coup, ça, on attrape un torticolis, etc. Mais bon, ben, ça, c'est encore autre chose. Mais je ne m'unis pas à la manière des animaux. Je m'unis comme une personne, parce que je suis à l'image d'une personne, je suis à l'image d'une communion de personnes, Père, Fils et Esprit. Nous le croyons, nous chrétiens, que Dieu est communion. Il est unique, mais il n'est pas solitaire. Et donc c'est intéressant de voir que dans la manière de vivre l'acte intime, il y a un vrai respect. Et je pense que c'est important aussi que. Alors, je ne sais pas où vous en êtes là-dessus. Je pense qu'un certain nombre ont eu des relations sexuelles, voire sont en vie commune, etc. Bon, il ne s'agit pas d'avoir un jugement là-dessus, mais vous invitez à une réflexion sur le sens des choses. Pourquoi l'Église demande ou recommande et demande l'abstinence avant le mariage? Premièrement, est-ce que vous faites la différence entre abstinence et chasteté? C'est quoi la différence? Niette, abstinence c'est niette. L'autre n'est plus un objet, la chasteté c'est une juste distance par rapport au corps de l'autre. L'autre n'est pas un objet, il est un sujet. Il est une personne. Et je veux dire la chasteté, parce qu'on confond souvent les deux. On pense que la chasteté, que c'est pour les moines, les prêtres, etc. Non. La chasteté, c'est un conseil évangélique, c'est-à-dire que pour toute personne qui veut vivre l'évangile, c'est ça que ça veut dire, conseil évangélique. Et si vous êtes disciple de Jésus et que vous voulez le suivre, vous vivez selon votre état de vie, comme consacré ou comme célibataire ou comme marié, etc., cette chasteté. Alors, les consacrés le vivent dans le célibat, donc dans l'abstinence, mais les époux, tout en ayant des relations sexuelles, vivent ces relations sexuelles dans la chasteté, c'est-à-dire avoir une juste, de voir l'autre, le corps de l'autre comme une. Faut faire très attention ça, au regard que l'on porte sur le corps de l'autre, le corps nu de l'autre. Je me souviens comme ça d'un couple où elle avait beaucoup de mal à se montrer nue. Mais aussi, là aussi, la question de la sexualité renvoie. On a vu ce matin avec l'autre qui fait un renvoi par rapport à son caractère, etc., par rapport aux colères, etc. Bon, mais la question de la sexualité, ça, c'est aussi un renvoi. Comme je regarde mon corps, je me regarde moi-même. Et donc elle-même, elle était pleine de complexes, pleine de, etc., etc. Donc du coup, mariée, voilà. Et elle a dit, elle avait du mal. Et donc du coup, ils sont allés petit à petit, d'une certaine manière. Du coup, volet fermé, rideau fermé, qu'on appelle ça l'empétinte, etc. Donc c'était un peu comme ça. Le mec était un peu à tâtons, donc il se retrouve avec les doigts de pied dans les narines. Hein, il dit non, c'est pas le bon côté. Donc voilà. Donc voilà. Et puis petit à petit, on allume peut-être, on tire les rideaux, peut-être une lampe qu'on allume, ça. Parce qu'il faut une confiance. Et se montrer nu à son mari, il ne s'agit pas de se montrer nu, ubi et orbi, hein, il s'agit de se montrer nu à son mari. Elle avait de la difficulté, parce qu'elle-même, elle était, par rapport à son propre corps, elle n'était pas à l'aise. Et il a fallu le regard de confiance de son mari, et ça c'est hyper important messieurs, c'est que jamais votre épouse sente un regard lubrique se poser sur son corps. De jouissance déconnectée de l'amour. Et ça, je crois que ça c'est... Parce que la femme le ressent très vite. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Hein, qui n'est pas ajusté. Et donc, c'est intéressant de voir que le corps dit la personne, et si l'Église demande l'abstinence, pour le coup, avant le mariage, en tout cas de vivre une période d'abstinence, alors certains sont en vie commune, alors, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, ils sont là pour prier le chapelet et s'encourager dans cette dimension-là, j'en suis sûr. Mais bon, il y a peut-être d'autres gestes qui posent, mais posez-vous la question, parce qu'on est dans la réflexion sur le sens des choses. Si vous êtes ici, c'est pour réfléchir au sens des choses. Sinon, pourquoi vous êtes ici? Oui, donc si on réfléchit sur le sens des choses, et si on a vu ce qu'on a vu ce matin, parole, corps, fécondité, l'union telle que le pense vraiment dans une vie selon l'Évangile, selon l'attachement au Christ, l'union intime vient incarner la parole, célébrer la parole que vous vous êtes donnée au moment de vos noces. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire de dire, bah, de vivre, et certains d'entre vous, je sais, le vivent, cette abstinence, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de vivre l'abstinence. Hein, il y a la bonne manière de vivre l'abstinence, c'est de vivre l'abstinence comme un don. Je fais le cadeau de ça. On se fait le cadeau, même si c'est un peu difficile, mais bon, c'est pour ça, c'est pas un sport, donc c'est bien de pas que les fiançailles ne s'étendent pas sur des siècles, tu vois. Donc voilà, c'est parce que précisément c'est complexe, parce que vous sentez, et c'est capital, que vous sentiez une attirance. Moi, je pose la question aux couples qui ont choisi cette voie-là de l'abstinence. Mais est-ce que vous avez ressenti dans votre corps une attirance sexuelle pour l'autre? Dans vos organes, est-ce que vous avez ressenti ça? Parce que moi, j'ai vu ça aussi. Il ne s'agirait pas de planquer des problèmes sexuels sous prétexte qu'on rentre dans les clous catholiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de planquer. J'ai eu des garçons comme ça qui n'avaient pas de désir. Bon. Et du coup, forcément, c'était assez simple. Pour eux, c'est plus simple que quand on a beaucoup de désir. Voilà. Bon. Avoir du désir, mais ne pas avoir du tout de désir, c'est compliqué après. Bon, alors ça peut venir d'une question hormonale, mais ça peut venir de questions. Voilà, faut, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut enquêter. On ne peut pas rester un manque de désir. Du côté de l'homme comme du côté de la femme, même si du côté de la femme, il est peut-être moins véhément traditionnellement, mais il y a des femmes. Le désir, il est neutre. Le désir est neutre. Je veux dire, avoir beaucoup de désir pour une femme, c'est pas pour ça qu'on a une S, trois petits points. Non, ça veut rien dire. Si ce désir te pousse à la communion, c'est la finalité du désir qui va en donner la beauté ou la malice. Mais ce n'est pas le désir lui-même. Hein, si vous êtes nourri à table, c'est là, bon, vous avez de l'appétit, etc. Parce que bah, la finalité, c'est de nourrir votre corps. Maintenant, vous seriez encore à demain à manger les frites. Bon, on se dit, bah, il y a peut-être un problème de boulimie. Là. Donc, bon, voilà, c'est pareil, c'est exactement pareil. Donc c'est intéressant de voir que le désir sexuel, il est neutre, comme l'appétit est neutre. Ni bon. Si je le finalise pour maintenir mon corps en mangeant, etc., mais ou alors pour le détruire, parce que du coup je rentre dans des addictions comme l'alcool ou des choses comme ça, ou alors c'est pareil au niveau de la sexualité. Si je, et je vous poserai une, vous aurez un temps de, en couple après, non, rassurez-vous, ça ne fait pas partie des thèmes de table, mais bon, du coup, c'est un temps en couple où je vous poserai, est-ce que j'ai eu dans ma vie des relations sexuelles plus motivées par dire, la recherche de plaisir que par une vraie communion. Vous voyez, donc, et je me rappelle comme ça, cette jeune femme, etc., ce couple que j'accompagnais, elle me dit, moi, il y a toute une période de ma vie, j'ai fait n'importe quoi de mon corps. Elle le disait, pour moi, ça m'a. Et je n'en veux plus de ça. Ça, je n'en veux plus. Et le fait de dire je n'en veux plus, c'est de le mettre dans la confession. S'il y a des choses à ce niveau-là, comme à d'autres niveaux, comme au niveau de la dureté de cœur, comme voilà, ça je n'en veux plus. Vous le mettez dans la confession. J'aime bien cette expression de Saint Benoît qui dit, la confession, c'est fracasser nos tentations contre le Christ. Donc, je trouve que c'est intéressant de retrouver ce sens de la personne et que la communion de la des époux et de l'union intime des époux, c'est une communion qui implique le don du corps, mais qui dit la personne. Mais aussi, Jean-Paul II insiste là-dessus, c'est un acte humain. Et ça veut dire quoi un acte humain? Ça veut dire un acte qui implique l'intelligence et la volonté. Connaître et aimer. Et vous savez qu'en langage biblique, connaître dit précisément la relation intime des époux. Quand la Vierge Marie dit « Comment cela va-t-il se faire parce que je ne connais pas d'homme », elle connaissait des hommes. Elle a commencé par son père, a commencé par Joseph. C'est pas connaissant quand on se connaît là. Mais c'est connaître au sens biblique. C'est-à-dire, je n'ai pas eu de relation intime avec un homme. Comment est-ce que je peux être la mère du Sauveur? C'est ça. Donc, c'est ça la question, connaître. Mais c'est intéressant de voir que ça demande l'intelligence et la volonté s'il y a une certaine connaissance, n'importe où, ou plus intellectuelle, que vous puissiez vous enseigner votre corps l'un à l'autre. Que vous puissiez dire votre corps l'un à l'autre. Quelles sont les caresses qui me gênent? Quels sont au contraire les gestes qui me disposent pour me donner à l'autre et fait monter le désir en moi, etc. Voilà, je pense qu'il y a une connaissance et que chacun d'entre vous, vous soyez assez attentif à ça. Je pense, pour l'homme, par exemple, souvent le matin, il a une érection. Alors, non pas qu'il veuille s'unir à son épouse pour signifier, rendre visible l'invisible de la Trinité, mais c'est simplement qu'il a envie de faire pipi. Sa vessie est pleine, du coup, il y a une érection qui, en général, arrive le matin, hein, parce que, bon, la nuit durant, la vessie s'est remplie. Voilà, mais c'est justement, il y a un discernement. Le désir que j'ai de l'autre, est-ce que c'est juste, ben, je vais jouer aux toilettes, puis ça m'apaise? Ou alors, il y a un vrai désir de communion. De même, la femme, c'est important qu'elle connaisse son corps, comment se manifeste ce désir. Avec, y a rien de sale dans le corps humain. Et c'est là où je trouve parfois qu'on, victime de ces siècles de négativité, parfois on voit une sorte de sorte de culpabilité, on voit que c'est quelque chose de sale. Non, je veux dire, de dire, voilà, de connaître que la femme connaisse comment le désir vient en elle à travers l'ouverture du vagin, la lubrification du vagin, l'érection du clitoris, le durcissement des seins. Voilà, c'est. Et du coup, de voir qu'au fond, les zones érogènes. Mais il n'y a rien de sale en disant ça. C'est le cœur de l'homme et de la femme qui est sale, mais on est à l'image de Dieu dans notre corps. Et que l'homme aussi soit maître de son érection pour permettre à la femme, de l'épouser, de ne faire qu'une seule chair. Hein, c'est vraiment ça, c'est de l'épouser. Et du coup, alors que je jouais, par exemple, si vous êtes un peu trop dans la dimension de la masturbation, etc., bah, du coup, c'est ce qu'on appelle les éjaculations précoces. C'est-à-dire, ben bah, voilà, l'érection ne se maintient pas assez ferme pour permettre à l'épouse d'avoir une vraie joie de se donner. Oui, donc je pense que c'est cette connaissance l'un de l'autre qui mais je trouve que ça demande une confiance. Ça demande un vrai abandon, un vrai respect qui n'est pas spontané. Parce qu'en nous, on a peut-être aussi la tentation, comme on dit, le péché de chair, etc. Bon, oui, en nous, peut-être plus chez les gens, mais pas que. Des choses qui font que. Ou alors des images qui nous trottent dans la tête, qui nous. Voilà, qui polluent, attention à la pollution par l'image. Les images qu'on a pu voir et qui fait qu'on peut très bien, par exemple, manquer de fidélité sans aller voir ailleurs. Simplement, en m'unissant à mon épouse, je pense à la super stagiaire qui vient de débarquer au bureau. Mais parce que, dans ma tête, hein, je me suis fait. Voilà. Donc, y a toute une hygiène de l'imagination au niveau sexuel, qu'on ait des fantasmes. Moi, je trouve que ça c'est un peu normal, ça fait partie de la nature humaine, mais que ensuite on réduise l'union sexuelle avec dans le couple à ces fantasmes-ci. Alors là aussi, alors là, il faut faire très attention. S'il y a des demandes d'excitation et de pratique dans le couple pour exciter ou s'exciter, mais en dehors de la communion des personnes, mais warning, parce on est complètement en dehors du sujet. Hein, ça peut être des tenues vestimentaires, ça peut être voir j'ai entendu à peu près tout, voir des vidéos pendant l'acte en question, voilà donc des positions qui m'excitent plus du côté animal que du côté humain, voilà, des fellations, c'est-à-dire prendre le sexe de l'homme dans sa bouche, etc. Bon, ça, je pense, c'est intéressant de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas respectueuses de l'autre. C'est intéressant de voir le lieu où va le sexe de l'homme, c'est lié à la vie. Et que si ça va dans un autre lieu, dans la femme qui n'est pas liée à la vie, mais dites-vous qu'il y a un manque de respect. Et je pense que ça, là-dessus, quelque part, la vie protège, vous voyez, donne sens et finalise aussi. Hein, l'acte humain de l'union sexuelle. Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui est assez beau de vouloir reprendre conscience de ça. Et donc, de voir que ces gestes mettent en jeu toute la personne, hein, du coup, de découvrir que nous sommes à la fois communion des cœurs, mais justement, la communion des cœurs. L'idée, dans le sens de l'abstinence, c'est que la communion des cœurs précède la communion des corps. Et que c'est quoi la communion des cœurs? C'est ce qu'on a vu ce matin. Ces paroles. C'est la parole que vous vous échangez au moment de vos noces. Hein, c'est la communion des cœurs. Le cœur, et je pense que les fiançailles, ça a cette vocation-là aussi, d'exprimer l'attachement du cœur, l'attachement affectif, etc. D'où se dire aussi que la relation sexuelle ne commence pas dans le lit. La relation sexuelle rend visible, manifeste la relation en général entre les époux. Il est impossible, par exemple, pour une femme de se donner après une engueulade. C'est impossible. Ou alors, voilà, c'est parce que c'est juste, parce qu'elle n'est pas disposée, parce que son cœur n'est pas, parce que son corps n'est pas disposé, ce serait même douloureux pour elle, etc. Donc, non, ça, c'est quelque chose qui. Du coup, c'est intéressant de dire que on prépare l'union intime, j'allais dire, il y a une sorte de préparation à distance, bah, pas à distance, mais. Lointaine, voilà. Il y a une préparation lointaine, il y a une préparation proche, mais il y a une préparation de l'acte par la tendresse, par les caresses, etc. Mais il y a une préparation lointaine par la qualité de votre relation. Et c'est parce que votre relation est de qualité, votre dialogue est de qualité, etc., que votre union sera de qualité. Là aussi, cessons absolument tout ce qui est de l'ordre de la performance. Alors, il faut faire des cris ineffables, etc. Bon, oui, mais ça, on voit ça dans des films. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Je veux dire, bon, non, oui, des orgasmes, ça existe. Et c'est intéressant de voir l'orgasme. L'orgasme qui est le lieu du don de la personne à l'autre. Mais c'est intéressant de dire, est-ce que ça s'enracine dans une qualité de relation? Parce que s'il n'y a pas... Pourquoi il y a des couples qui se séparent? Parce que c'est vrai que... Ils se séparent entre autres à cause d'infidélité. Parce qu'à un moment donné, l'autre a laissé son conjoint seul avec son désir sexuel, son désir d'union. L'a laissé seul. Et donc voilà, la nature ayant horreur du vide, du coup il ou elle l'a trouvé. Mais pourquoi il l'a laissé seul? Peut-être la qualité de la relation matrimoniale dans son ensemble, mais s'est détériorée. Voyez comme une unité, voyez comme une respiration entre votre communication, votre manière de vivre, de vous appeler, votre délicatesse dans les gestes, dans les services, dans le quotidien, etc. Voyez un lien et une respiration avec l'union intime des époux. Voyez les choses dans une unité. Hein, ce n'est pas un wagon à compartiment, c'est un wagon corail. Le wagon corail, on voit tout du début à la fin. Il y a une unité. Et donc voyez les choses dans l'unité. Et l'unité que vous avez dans la chair, elle vient de l'unité que vous avez à l'intérieur du cœur, l'un à l'autre, et de l'attention que vous vous portez l'un à l'autre. Mais l'inverse, c'est aussi vrai. Mais et sachant que c'est quelque chose, justement, toutes ces questions de performance sexuelle, etc., moi je trouve que c'est absolument, déjà, c'est souvent irrespectueux, comme je vous l'ai dit, obligeant la femme à un certain nombre de pratiques avec lesquelles elle n'est pas vraiment en accord, etc. Mais elle dit, mais sinon, il y a un peu cette idée-là, il ne faudrait pas qu'il aille chercher ailleurs. Peut-être qu'il y a une autre qui sera d'accord. Donc ça peut traîner un peu dans la tête de certaines. Mais vous voyez, c'est complètement. C'est une perte de sens. C'est cette recherche de la performance, de la. Que vous ayez une vraie joie, et ça c'est important, que vous ayez une vraie joie, une joie qui s'enracine. Hein, dans le corps. Et encore une fois, cette joie-là, elle est bonne parce que la finalité est bonne. Et cette finalité, c'est la communion. Et donc, dites-vous, comment vous pouvez faire? Et c'est quelque chose qui évolue. Là aussi, la nuit de noces. Il y a des tas de fantasmes autour de la nuit de noces. Que la nuit de noces, c'est comme ci, comme ça. Bon, déjà, la nuit de noces, bon, j'en ai jamais vécu, mais on doit être complètement explosé de fatigue parce qu'on est. Et puis, elle est. Fatigue aussi le visage à force de sourire pendant 24 heures, etc. Aux oncles, aux tantes, aux copains, etc. On doit être complètement rincé. Bon, la nuit noire, je pense qu'on dort. Donc, c'est peut-être pas là que ça va se passer. Voilà, mais c'est important, je dis ça aussi, c'est important que, j'allais dire, de cette préparation lointaine, vous soyez aussi en forme. C'est pas après un trek, etc., où vous êtes explosé de fatigue, etc. Non. Vous soyez disposé, il y a une disposition du corps pour pouvoir accomplir l'acte intime. C'est important de vous donner aussi, de prendre le temps. Moi, je vois, comme certains diront un peu exagéré, mais comme une forme de célébration. Vous savez, moi, j'ai horreur pendant la messe d'être pressé. Faut terminer, faut terminer. Moi, non, ça, c'est non. Moi, je prends mon temps. Si je vois qu'il y a l'assemblée, je ne suis pas très long, mais je ne veux pas se presser. Hein, voilà. Et si je vois que l'assemblée a peut-être besoin de plus, vraiment dans la prière, ça c'est des choses que l'on ressent comme prêtre, etc., peut-être prolonger de quelques minutes. Mais je trouve que c'est pareil pour la relation intime. Que ce soit un lieu où vous preniez votre temps. Un lieu de parole, non seulement du corps, qui devient une parole. Mais un lieu où vous vous parlez, vous vous dites, vous redites l'affection que vous avez l'un pour l'autre, l'attachement que vous avez l'un pour l'autre. Et c'est parce que vous vous redites ça, à ce moment-là, que ça fait que le corps de l'épouse se prédispose pour accueillir son époux, que l'époux est en désir du corps du corps nu de sa femme, c'est important. Comme je vous l'ai dit, la nudité, c'est le signe de la confiance. Voilà, que les corps nus soient l'un dans la confiance, dans un regard qui est pur et qui est un vrai regard d'amour l'un envers l'autre, et non pas dans un regard de concupiscence et de volonté de prendre. Hein, c'est ça la concupiscence, c'est les doigts crochus. à la concupiscence, grosso modo, il y a trois concupiscences. Vous avez la concupiscence de la chair, donc ce que je viens de décrire, c'est-à-dire vouloir l'autre comme un objet et non pas comme un sujet, la concupiscence des richesses et la concupiscence du pouvoir. Hein, c'est les trois formes de concupiscence qui sont les trois formes aussi hein, de tentation. Hein, quand vous regardez les tentations du Christ, ces trois formes-là. Et c'est les trois vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. C'est les trois conseils évangéliques. Donc c'est intéressant de que vous puissiez célébrer, que vous ayez le temps. Je trouve aussi le lieu est important. Je veux dire, faites de votre chambre matrimoniale un sanctuarisé. Je ne parle pas comment c'était chez vous, chez vos parents, etc. Moi, je sais que chez mes parents, on ne rentrait pas dans la chambre des parents. En tout cas, sans frapper à la porte. Ça, c'est absolument... On ne rentrait pas, parce que voilà, il y avait il pouvait être en train de se changer, il pouvait être en train de s'unir, il pouvait être en train de faire des tas de choses. Bon, voilà, mais on ne rentrait pas. C'est d'avoir un lieu qui soit à vous, et que avec vos enfants, que le Seigneur vous donnera, de sentir que c'est un lieu particulier dans la maison. C'est un lieu où l'amour se célèbre. C'est un lieu où la vie naît. Oui, je pense que c'est... Ce lieu-là, il est important et du coup à la fois de cette question du temps que ne vous pressez pas et non pas comme on disait de Chirac pour lui c'était 10 minutes douche comprise. Bon, c'est pas un modèle en matière Bernadette Chirac certainement a dû avaler beaucoup de couleuvres. Je pense pas que ce soit un exemple à suivre. Mais toujours est-il que, voilà, non, je pense que c'est le lieu, le temps, la cadence aussi, c'est important de pas de vous dire de quoi j'ai besoin. Est-ce que c'est trop espacé, c'est trop rapproché Vous ayez un dialogue, alors ce n'est pas à chaque petit déjeuner que vous allez parler de la sexualité entre vous, là vous allez en parler parce que je vais vous poser des questions, etc. Mais c'est vrai aussi, moi ce que je trouve, c'est qu'il y a un manque de dialogue entre époux. En général, et il y a un manque de dialogue avec les parents. Alors, je ne sais pas vous, mais c'est la première question, je pense que je pose là. Comment la sexualité m'a-t-elle été présentée au cours de mon éducation? Souvent, c'est électro-encéphalogramme plat. Rien, ni zéro. Souvent, hein. Quand c'est pas, on donne le livre d'un bon père, etc. Tu liras ça. C'est bien de donner les livres d'un bon père, mais tu n'es pas forcément archi-spécialiste dans un truc. Eux, ils sont père-mère de famille. Voilà, la parole des parents, je trouve, c'est une parole importante. Hein? Donc, d'autant plus que quand il n'y a pas de parole, ça peut laisser la place à des blessures. Hein? Je vous ai dit là, la question de la pornographie, la masturbation qui s'enracine vraiment dans la personne, etc., qui viennent parfois de blessures d'enfance hein, ou de blessures de fréquentation, parce que par manque de parole, parce que d'autres disent des choses, mais c'est pas dans le respect des personnes. Hein. Mais ces blessures-là, elles peuvent venir d'ailleurs aussi. C'est tout ce qui est de l'ordre de la toute la question. Ben, malheureusement, on l'a vu dans l'Église aussi, la question des abus sexuels, de voir au fond qu'il y a dans la personne humaine, il y a aussi parfois des... c'est pas rare que lors d'une session comme ça, l'un ou l'autre vienne me voir, dire « Oui, moi j'ai été abusé dans mon enfance. » Alors, pas toujours grâce à Dieu par un prêtre, c'est parfois souvent un cousin, un oncle, ou... Voilà, c'est la question de l'inceste. L'inceste dans les familles. Alors, vous faites bien la différence entre incestueux et incestuel. Hein, incestuel, c'est dans la famille, il y a une odeur de sexe. C'est-à-dire dans la famille, il y a quelque chose qui fait que, on blague en dessous de la ceinture, revue porno sur la table du salon, on rentre, le père qui rentre alors que sa fille prend sa douche. On ne touche pas la peau de l'autre, mais où la fille qui a des seins s'assoit sur les genoux de son père. Voilà, des choses comme ça qui fait quelque chose de malsain. On sent que c'est ce qu'on appelle incestuel. C'est déjà, il y a quelque chose. Voilà, même la question du rapport à la pudeur. Je ne sais pas vous dans vos familles, mais la question du rapport à la pudeur, pudeur j'entends physique, c'est très différent. Je me rappelle comme ça, un couple, j'ai accompagné. Elle, ses parents sont médecins. Alors les médecins, il ne faut pas dire ça à frère Sébastien parce qu'il est médecin urgentiste, mais bon, ça ne le concerne pas, vous verrez pourquoi, ont un rapport au corps très particulier, parce que c'est technique pour lui, c'est bon. Mais eux, ils se baladaient à poil très facilement devant les parents, les enfants, etc., sans aucune gêne, voilà, jusqu'à un moment donné où les enfants, archi-gênés, ont demandé aux parents, stop, arrêtez cette pratique-là. Nous, ça nous gêne, parce qu'ils avaient 16 ans, ils n'avaient pas. Bon, quand tu as 7 ans et les parents, tu prends ton bain avec ta mère, c'est pas un problème. Mais à 15 ans, c'est fini, quoi. Ou alors, il y a un autre problème, quoi. Du coup, je trouve que. Voilà, c'est voilà, des choses comme ça, la question de la pudeur dans la famille. Comment est-ce que la pudeur a été vécue entre frères et sœurs, parfois dans les camps scouts aussi, parfois voilà, on voit des choses, des dérapages, etc. Et si vous avez été, et c'est vrai, je pense à cette jeune femme qui avait été victime comme ça d'attouchement, il lui a fallu des années d'acclimatation et de confiance pour vivre l'union sexuelle dans la joie. Pendant des années, elle a vécu ça de façon de la pénétration comme douloureuse. Vous voyez, elle me disait, parce que je me suis, c'est ce qu'on appelle infracté, je me suis senti qu'on franchissait des frontières, par infraction, on est rentré en moi. Voilà. Et du coup, pour elle, dès qu'elle voyait un homme, etc., et au moment de l'union intime, et il a fallu beaucoup de patience à son mari, et de confiance pour qu'elle puisse vivre la pénétration comme une source de joie et de fécondité. Oui, donc, mais parce qu'il y a des blessures. Donc, si vous avez aussi eu des blessures de par des manques de pudeur, de par des images qui vous ont choqué, et pas que par Internet, de par des gestes qui ont été posés sur vous, voilà, sachez que c'est pas. Parce que la sexualité touche la personne, les dérives touchent la personne. C'est pas anodin. C'est certainement pas anodin. Donc c'est quelque chose dont vous avez à parler entre vous. Ensuite, un petit point sur l'accueil de la vie. C'est vrai que le fait que la fécondité charnelle, ce n'est pas la seule fécondité des époux, mais que la fécondité charnelle soit liée à l'union intime pose un certain nombre de questions. C'est pas sans complexe, sans difficulté. Mais ça veut dire aussi que, premièrement, je reçois la vie comme un don. Je reçois la vie comme un don, c'est-à-dire que je renonce à toute forme d'interruption de grossesse. Alors, je ne sais pas, là aussi, certaines d'entre vous ont pu être, j'allais dire, confrontées à cette question-là, et parfois même dans des milieux très cathos. Il y a parfois dans les cathos BCBG des attitudes mortifères. D'une fille de 16 ans, hein, on va défiler contre l'IVG, contre la manif pour tous, pour la manif, le mariage pour tous, etc. Mais si la fille a 16 ans, elle est enceinte, moi, ma fille. Tu le dégages. Parce qu'on ne veut pas, ou alors avant le mariage, voilà, il ne faut pas arriver avec un gros ventre devant monsieur le curé, etc. Ça, c'est mortifère. Oui. J'ai accompagné un couple. Bon, ils étaient assez détendus sur le truc, etc. Finalement, elle est tombée enceinte avant le mariage, et en plus, c'était des jumeaux. Donc, inutile de vous dire, mais elle était très cool, quoi. Elle était, bon, ben, ils sont là, il est hors de question qu'on ne les garde pas, etc. Donc la question de voir la vie comme quelque chose de sacré, parce que je vois aussi mon corps, la femme a quelque porte un autre corps en elle-même, donc c'est intéressant de voir ça, parce que je vois aussi mon corps comme, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit, donc c'est intéressant de. Maintenant, il y a des questions qui sont complexes. La question, et c'est pour ça, de la détection d'un enfant handicapé. Je vous poserai la question, vous puissiez en parler entre vous. Si à l'échographie, souvent du troisième mois, on voit qu'il y a un enfant handicapé, eh bien, tout de suite, on vous proposera l'IVG, ou l'IMG, comme on dit, l'interruption médicale de grossesse, ou même thérapeutique, je ne me rappelle plus comment on dit. Mais bon, voilà, on vous proposera tout de suite. Bon, si vous êtes un conseil, si vous êtes confronté à ça, parce que c'est quand même un séisme, et n'oubliez pas que 96% des enfants chez lesquels on détecte une trisomie 21 sont avortés, 96%. Alors que dans les handicaps, la trisomie 21, c'est un peu la Rolls des handicaps, parce que c'est quand même, c'est pas, il y a des handicaps beaucoup, beaucoup plus lourds. Un conseil, ne restez pas seul. Parce qu'en face de vous, vous aurez le corps médical qui vous poussera à l'avortement. Ça, c'est absolument clair. En France, je trouve beaucoup plus, comme beaucoup de choses, on est beaucoup trop tendu, beaucoup plus trop stressé de la vie, etc. Et du coup, il y a une sorte de pression, plus qu'en Angleterre, plus que, bon, on a des Belges qui sont là, bon, ils ont dû sortir pour un coup de téléphone. Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le sujet, je pense pas. Donc, ils m'avaient prévenu qu'ils sortaient, ils se tournent, que ça tombe, voilà. Donc, mais du coup, voilà, il y a des pays où c'est beaucoup moins tendu qu'en France, c'est quand même, il y a un côté idéologique. De même aussi, au rebours, la question de la stérilité. La question de la stérilité, je pose la question dans le papier que vous allez avoir. Là aussi, si on vous apprend, alors ça dépend, il y a des degrés, moi je ne suis pas médecin, mais c'est extrêmement complexe ces affaires-là. Ça peut être une hypofécondité, hein, chez l'un ou chez l'autre. Par exemple, une manque de concentration de spermatozoïdes chez l'homme qui fait qu'au fond, il y a moins de chances de pouvoir engendrer la vie. Bon, voilà, donc toutes les techniques qui favorisent en même temps que l'union des corps, mais qui dobent, j'allais dire, ce que fait la nature, sont encouragées. La difficulté quand on sépare la vie du corps. Qu'est-ce que c'est séparer la vie du corps? C'est toutes les méthodes de PMA, etc., de FIV et compagnie. L'Église, évidemment, est très réticente. Pourquoi? Parce que vous avez là, vous direz, mais pourquoi c'est injuste? Il faut donner... Bon, l'enfant n'est pas un dû, c'est un don. On n'a pas le droit à l'enfant. Maintenant, on a le droit à tout. Et droit opposable, même. Non, on n'a pas le droit à l'enfant. Parce que du coup, ça fait de l'enfant un dû, et du coup, ça fait un rapport à l'enfant qui est très complexe. J'en suis persuadé. Et aussi, il y a une autre question, c'est tout ce qu'on appelle les embryons surnuméraires. C'est-à-dire que vous avez, j'ai eu des couples qui ont choisi ça, bon, ça, je leur ai dit en conscience ce que je pensais, etc. Ils ont choisi ça. Mais ils me disent, mais vous n'avez pas idée dans quelle galère on s'est lancé. De protocoles, ce qu'on appelle des protocoles. Donc, évidemment, on vous appelle, surtout pour la femme, on dope la femme, etc., aux hormones, pour ensuite on prélève les ovocytes, ensuite on prélève le sperme, ensuite on va, bon, mais du coup pour ce qu'on appelle le transfert de l'embryon, mais du coup j'ai l'impression d'être une vache, faut vous en produisiez, on va en faire le plus possible. Oui, on perd de vue ce qui fait que il y a des embryons surnuméraires, et pour nous, dès la fécondation, il y a déjà une personne humaine en puissance, potentiellement. Tout est là au rendez-vous. Hein. Rien n'a changé entre une personne de 95 ans et le moment de sa fondation, où les gamètes de ses parents se sont rencontrés. Au niveau de son ADN, c'est exactement le même. Le corps, est parti, c'est épuisé, c'est malade, etc. Mais il n'y a rien, strictement rien de différent. C'est bien la même personne, quoi. Donc au niveau de l'ADN, au niveau... Voilà, donc la grande réticence, justement, parce que, du coup, une fois qu'on a la main sur la vie, tout ce qu'on peut faire. Ah ben non, moi je veux un garçon. C'est comme ça aux États-Unis. Vous choisissez sur catalogue. Alors, il y a ce qu'on appelle les FIV homologues, c'est-à-dire avec le matériel des époux, ou les FIV hétérologues avec du matériel génétique extérieur. Et quand c'est du matériel génétique extérieur, c'est-à-dire avec des ovocytes ou des spermatozoïdes extérieurs, du coup, on vous montre un catalogue. Voilà, c'est cette personne-là, c'est ça, pas de la photo, mais ses caractéristiques, elle est, fait 1,80 m, elle veut ceci, etc. Oui, donc on façonne quelque part, on façonne l'enfant à notre image et ressemblance. Ça devient un dû. Voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vous invite à réfléchir pendant cette heure-là, à travers les questions que je vais vous poser. Avant ça, est-ce que vous-même, vous avez des réflexions ou apports que vous voudriez faire par rapport à ce que vous venez d'entendre? Oui. Oui, alors il peut y, quand je dis, vous dites s'il y a un séisme, l'annonce d'un enfant handicapé, etc., ne restez, ça peut être la bonne personne, je pense, qui vous comprend, qui respectera aussi en conscience. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit, on dit, voilà, il y a des larmes de vie, il y a des larmes de mort. Dans les deux cas, on pleure. Mais je pense que c'est la bonne personne, oui. Des personnes qui sauront vous comprendre, qui sauront, bon, voilà. Qui sauront vous accompagner tout en respectant votre conscience, mais qui éclaireront votre conscience, qui vous diront, non, il y a d'autres solutions. Moi, ce que je reproche, c'est qu'on dit, il n'y a pas d'autres solutions possibles, c'est que cette solution possible. On ne donne pas le choix, on dit les pro-choice, etc. Non, ce n'est pas le choix, on ne donne pas le choix. Il y a une sorte d'injonction sociétale à l'avortement. On en est quand même, je pense, c'est 240 000 quand même par an. C'est pour à peine 800 000 naissances. Ou 220 000, peut-être, il faudrait voir les statistiques. J'ai pas. C'est quand même considérable. C'est pas de cas, c'est pas 220 000 enfants handicapés. Je veux dire, on va pas. Voilà, c'est juste peut-être parce que voilà, la grossesse tombe pendant les vacances, et bien non. Bon. Donc, je pense que oui, un père, un frère, un couple aussi, une personne qui est née dans la foi, en tout cas, oui. Personne dans laquelle vous avez, ou dans lesquelles vous avez une confiance dans le discernement. D'autres questions sur ces sujets délicats? Oui, tout à fait. On vous propose de faire le test de la trisomie 21, et c'est très souvent. Et du coup, je dis non. Voilà, mais pourquoi faire? Soit il est. Parce que si vous voulez, quand on vous propose de faire le test, c'est pas pour dire on va vous accompagner. C'est on va dire on va le sortir de là. C'est ça, faire le test. Derrière ça, il y a l'idée de contrôle. Derrière ça, il y a l'idée de toute-puissance qui s'oppose à Dieu. Je veux dire, derrière ça, il y a une sorte de vouloir avoir la main mise sur tout. C'est vrai que la science permet des choses magnifiques, mais permet aussi de tester maintenant tout. Comme tout l'ADN est là au moment de la conception, tout est. On peut même tester, semble-t-il, l'hypertension artérielle. Sans compter évidemment la couleur des yeux, les cheveux, etc., etc. Voilà. Et donc, non, c'est pourquoi faire. Et ça peut être aussi, voilà, de dire, ben, si on l'accueillera. Mais vous voyez, c'est certainement un couple croyant, je suppose. Non, c'est
Oui, c'était dans la préparation collective.
voilà. Et c'était préparé. Voilà, de dire, ben, on l'accueillera comme il sera. Et on portera ça avec d'autres, aussi, ne pas rester seul. parce que c'est aussi, il faut porter des enfants handicapés, c'est quand même loin d'être simple. Arrêtons, c'est pas, faut pas non plus jouer, voilà, c'est Jésus qui vient chez nous, oui, oui, certainement. Mais la réalité, elle est complexe, c'est-à-dire, Jésus parfois est complexe, quoi, donc, à gérer, donc...